RTL dimanche soir, Autoradio.
Autoradio, c'est donc parti comme chaque dimanche soir avec Christophe Bourou. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et ce soir, on va tenter d'y voir clair sur les hybrides rechargeables.
Faut-il carrément les bannir de nos routes, comme le réclame une ONG, selon des tests dévoilés cette semaine? Les hybrides rechargeables émettraient jusqu'à 12 fois plus de CO2 que ce qu'annoncent les constructeurs. Seulement voilà, certains remettent en cause le bien fondé de cette étude. Nous allons tenter de démêler le vrai du faux sur cette affaire, sur des modèles de plus en plus plébiscités par les Français, plus 230% de ventes depuis le début de l'année.
Ouais, l'hybride rechargeable cartonne effectivement, ça pose des questions. Et pour en parler avec nous, François Tarin, le rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Alors vous aussi évidemment, pour Auto Plus, vous réalisez de nombreux tests et vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec cette étude. Et puis on entendra aussi la réaction de Pierre Chasseret, le porte-parole de 40 millions d'automobilistes. Il est très remonté, lui, contre cette étude.
Arrêtons un peu de prendre les Français pour des imbéciles avec des discours qui sont falsifiés, parce que la réalité, c'est que l'hybride, c'est peut-être une solution de transition extrêmement positive pour permettre de moins polluer et surtout pour les automobilistes de moins consommer, donc de faire des économies de carburant.
Alors voilà ce que dit Pierre Chasseret. Et avant de vous entendre, François Tarin, et de revenir sur cette enquête qui fait polémique, eh bien Christophe Bourou, dites-nous, expliquez-nous tout simplement ce qu'est un hybride rechargeable et quelle est la différence avec un hybride, on va dire, classique.
Alors Vincent, c'est un peu le meilleur des deux mondes, l'hybride. C'est une voiture mi-électrique, mi-thermique. La plus connue, eh bien, c'est la Toyota Prius. C'est simple, l'hybride embarque une batterie de faible capacité électrique pour une autonomie limitée à quelques kilomètres, par exemple en centre-ville, et une vitesse max d'environ 50 km/h. Vous ne vous occupez strictement de rien, la batterie est rechargée en roulant, en grande partie grâce notamment au moteur thermique.
Alors ça, c'était l'hybride classique, mais donc on voit de plus en plus arriver ce qu'on appelle les hybrides rechargeables.
Alors pourquoi rechargeables? Tout simplement parce qu'il faut les recharger comme une voiture 100% électrique, car sur ces modèles, le moteur électrique est plus important et permet de meilleures autonomies de l'ordre de 50 km en mode pur électrique.
Alors ça, c'est le tableau que vous dressez. Seulement, voilà, il y a cette étude menée par l'ONG Transport et Environnement qui pourrait mettre un frein à cette incroyable embellie.
Alors les tests qui ont été dévoilés cette semaine ont porté sur trois modèles, trois SUV, le Mitsubishi Outlander, le BMW X5 et le Volvo XC60, testés dans plusieurs conditions sur route plus ou moins sinueuse, avec coffre vide ou plein. Et à chaque fois, les émissions de CO2 ont été supérieures aux annonces des constructeurs, 6 fois, 8 fois, jusqu'à 12 fois plus. Alors si l'enquête pointe encore une fois la fiabilité des tests d'homologation, cela soulève surtout le problème des automobilistes qui oublient bien souvent de recharger, de brancher les batteries sur une prise. Et forcément, comme elles pèsent en moyenne 300 kg, quand vous roulez en mode pur thermique, eh bien, la voiture consomme et affole les compteurs. Donc pour Diane Strauss, directrice France de Transport et Environnement, l'hybride est un non-sens.
C'est un peu une chimère qui essaye d'allier le meilleur des deux mondes, mais qui en fait pollue et émet beaucoup plus que ce qu'on aimerait. C'est des produits qui pour le moment ne sont pas conçus pour avoir des grandes autonomies et pour avoir des conduites dynamiques, parce que la batterie et la puissance du moteur électrique est trop faible. Il est temps de se concentrer principalement sur le véhicule électrique qui a maintenant une autonomie de plus en plus longue. On pense que le véhicule électrique est une vraie réponse comparée au véhicule hybride rechargeable qui en fait était censé être une technologie de transition mais qui ne fait pas ses preuves.
L'ONG réclame donc l'arrêt des subventions de l'État pour l'hybride rechargeable à hauteur de 40 millions d'euros par an pour se concentrer sur les véhicules 100% électriques.
Voilà, arrêtez de subventionner ces voitures hybrides rechargeables. C'est ce que propose cette association. Ça fait évidemment beaucoup réagir, notamment le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseret.
Dans un premier temps, on a eu les attaques contre le diesel du milieu environnemental. Ensuite, on a eu celles contre l'essence et les motorisations thermiques. Maintenant, on arrive sur l'hybride avec un discours qui est assez falsifié. À chacun, à chaque usage, son choix automobile. Et arrêtons un peu de prendre les Français pour des imbéciles avec des discours qui sont falsifiés, parce que la réalité, c'est que l'hybride, c'est peut-être une solution de transition extrêmement positive pour permettre de moins polluer et surtout pour les automobilistes de moins consommer, donc de faire des économies de carburant.
Voilà donc Pierre Chasseret, le porte-parole de 40 millions d'automobilistes. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Auto Plus, François Tarin. Donc on vient d'entendre les pour et les contre hybrides rechargeables. Alors vous, éclairez-nous. Est-ce que les hybrides rechargeables sont vraiment aussi polluants que le montre cette étude ?
Alors, ce qu'a fait Transport et Environnement, c'est tester les hybrides rechargeables dans leur utilisation la plus dévoyée et inutile, c'est-à-dire sans jamais recharger les batteries. Aujourd'hui, c'est un véritable engouement parce que c'est le meilleur des deux mondes dans deux domaines, à la fois l'usage et à la fois la fiscalité. Ce que Transport et Environnement ne retient, c'est que le volet fiscal, en faisant croire et en voulant nous faire croire que ce sont des véhicules qui sont uniquement conçus pour optimiser fiscalement l'achat des véhicules. Alors que nos tests l'ont montré, et on le sait, quand on utilise ces véhicules en rechargeant de manière régulière, quotidiennement, les batteries qui ont effectivement une autonomie réelle de 40-50 km, qui permettent de faire du domicile-travail chaque jour. Alors à ce moment-là, on obtient en moyenne, car il ne faut pas oublier que les émissions de CO2 se calculent en moyenne sur un usage au long cours et pas uniquement sur un test batterie vide et en conditions réelles comme l'a fait Transport et Environnement. Alors on peut, si ce n'est atteindre, mais en tous les cas approcher les émissions de CO2 qui sont retenues à l'homologation. Et dans ce cas-là, on est dans le meilleur des deux mondes, effectivement.
Mais François, dans la réalité, est-ce que les utilisateurs, ils rechargent réellement leur batterie ?
Alors, c'est à eux qu'il faut demander ça, bien sûr que certains ne le font pas.
J'essaye de le demander à vous aussi, parce que...
Mais bien sûr, mais certains ne le font pas, on le sait, bien sûr, que c'est aussi un avantage fiscal dont bénéficie aujourd'hui l'hybride rechargeable et qui intéresse certains utilisateurs qui n'ont pas de prise chez eux et qui ne rechargent jamais. Donc, ce que Transport et Environnement démontrent, c'est que le mauvais usage de ces véhicules, par certains, implique effectivement des émissions de CO2 très élevées. Le bon usage, par d'autres, implique des émissions de CO2 qui s'approchent de la norme et qui sont effectivement le meilleur des deux mondes. Je ne vais pas faire le procès de ceux qui ne jouent pas le jeu. Ils existent, bien sûr, comme dans tous les domaines. Il y a des gens qui utilisent des véhicules thermiques à fond et toujours au taquet et qui consomment beaucoup plus que ce que la norme a défini. L'éco-conduite, c'est la responsabilité de chacun. Ensuite, comment inciter et comment forcer les utilisateurs de ces véhicules à s'en servir dans l'esprit de leur conception, je n'ai pas la réponse. Ça va être compliqué. Je sais qu'en Italie, par exemple, Fiat a réfléchi à un système pour commuter automatiquement le moteur électrique dès lors que les véhicules hybrides rechargeables rentrent dans des zones avec des restrictions de circulation. En gros, forcer l'usage de l'électrique dans les villes où, comme à Paris, hein, où qui devient une zone à faible émission et qui l'est déjà comme d'autres, passer en mode électrique et forcer le mode électrique.
On peut imaginer un message qui s'affiche sur le tableau de bord, attention, vos batteries sont déchargées, vous polluez plus.
Bah pourquoi pas, ça peut être, aujourd'hui on a dans nos voitures modernes énormément de messages d'éco-conduite qui nous permet par exemple de choisir tel ou tel mode de fonctionnement en dégradant un petit peu les performances pour économiser, mais on ne pourra pas empêcher quelqu'un qui a un gros SUV hybride rechargeable et qui n'a pas payé de taxes de ne jamais recharger ses batteries.
François Tarin, vous évoquez les taxes, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une subvention pour acheter les hybrides rechargeables, 1000 euros de subvention pour les hybrides rechargeables, et finalement l'organisation écologiste dit ça, il faut arrêter les subventions pour les hybrides rechargeables.
Non, il ne faut pas arrêter les subventions pour les hybrides rechargeables, on ne va pas se mentir, quelqu'un qui a des frais kilométriques dont c'est la société qui paye le carburant et qui n'a pas une fibre écologique très élevée, effectivement, son hybride rechargeable, il ne va jamais le recharger. Maintenant, monsieur tout le monde, qui gère son budget automobile de manière fine, si on lui dit qu'aujourd'hui, un 3008 ou un Captur, par exemple, s'il en fait un usage en ville avec une recharge régulière qui va lui permettre de consommer très peu, va lui permettre à la fin de l'année de faire des économies, il va jouer le jeu.
Justement, il y a un intérêt fiscal. Comment ça se passe lorsqu'on va dans une concession et qu'on est intéressé par une hybride rechargeable ? Est-ce que vraiment on va avoir ce discours-là de la part du vendeur qui va nous mettre en garde sur le thème « Attention, si vous prenez ce modèle, il faut absolument recharger régulièrement les batteries, sinon vous allez polluer bien plus qu'un véhicule thermique. »
C'est vrai qu'il y a un problème de compréhension de la technologie hybride rechargeable chez certains clients, parce que pour eux, entre hybride légère, hybride rechargeable, hybride non rechargeable, c'est un peu le Far West, on comprend pas trop. Et cette émission aujourd'hui permet à nouveau de redire qu'une hybride rechargeable doit, pour atteindre des consommations raisonnables, être rechargée le plus souvent possible, et que c'est à cette condition qu'on aura une consommation moyenne qui sera proche de ce que le vendeur va vous annoncer. Mais le vendeur, il va aussi vous annoncer que si vous n'avez pas de prise de recharge chez vous, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, la recharge, et le réseau et l'infrastructure, si vous n'en avez pas, vous pouvez à l'année ne fonctionner qu'en thermique et vous affranchir de la contrainte de la voiture purement électrique qui aujourd'hui pâtit d'un réseau de recharge perfectible qui fonctionne pas toujours avec le fil à la patte des autonomies, quoi qu'en dise transport et environnement, qui ne sont pas suffisantes pour être une seule voiture polyvalente pour l'ensemble du foyer, donc qui impose souvent d'avoir un second véhicule. À chaque motorisation, son usage, à chaque usage, sa motorisation. Il ne faut pas être lénifiant et dire que l'électrique fait tout, c'est faux. Le diesel a sa raison d'être, l'hybride rechargeable également, et l'électrique aussi. C'est pas à moi et c'est pas à nous de distribuer les bons et les mauvais points, c'est à chacun de se prendre en charge et d'assumer la motorisation qu'il a achetée pour l'usage qui a été conçu, pas uniquement pour faire une économie d'argent.
Merci beaucoup François Tarin de cet éclairage.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus.
Merci.
La question Autoradio Turbo.
Alors cette question Autoradio Turbo, quelle est-elle ?
Ah bah justement, elle rejoint l'émission, elle porte cette question sur les zones à faible émission, interdites aux vieux véhicules essence et diesel. Il y en a 4 aujourd'hui, 7 de plus l'an prochain et 35 d'ici à 2025. Alors là, vous pourrez rentrer avec des hybrides rechargeables, mais avec vos vieilles voitures, ça ne sera pas possible. Il y aura même des radars qui pourront contrôler les plaques d'immatriculation. Êtes-vous donc favorable à l'extension de ces zones ? C'est la question Autoradio Turbo de la semaine. Vous réagissez sur RTL.fr.
La cerise sur le capot.
Alors, pour cette cerise sur le capot, un hommage.
Bah oui, à Diego Maradona, non seulement footballeur de génie, mais grand amateur de voitures, il les a collectionnées comme les trophées. Dans les années 80, ses fans lui ont même offert une voiture, une Mercedes SLC, voiture achetée pour l'anecdote chez un certain Juan Manuel Fangio,
non,
qui avait une concession à Buenos Aires, autre icône sud-américaine, hein, légende de la course automobile. Maradona adorait les Ferrari, mais seulement de couleur noire, excentrique sur le terrain et au volant. Il possédait un tas de voitures, des BM, des Porsche, une Rolls, mais aussi un camion et une Renault Fuego.
Eh, la classe, Diego. Hein. Merci beaucoup, Christophe.
Merci.
À dimanche prochain.